chapitre 3, où il est prouvé que la reconnaissance était une des vertus de M. de Saint-Luc. Le lendemain du jour où M. de Montsoreau avait fait à la table de M. le duc d'Anjou cette piteuse mine qui lui avait valu la permission de s'en aller coucher avant la fin du repas, le gentilhomme se leva de grand matin et descendit dans la cour du palais. Il s'agissait de retrouver le palefrenier à qui il avait déjà eu affaire et, s'il était possible, de tirer de lui quelques renseignements sur les habitudes de Roland. Le comte réussit à son gré. Il entra sous un vaste hangar où 40 chevaux magnifiques grugeaient à plaisir la paille et l'avoine des Angevins. Le premier coup d'œil du comte fut pour chercher Roland. Roland était à sa place et faisait merveille parmi les plus beaux mangeurs. Le second fut pour chercher le palefrenier. Il le reconnut debout, les bras croisés, regardant, selon l'habitude de tout bon palefrenier, de quelle façon, plus ou moins avide, les chevaux de son maître mangeaient leur provende habituelle. « Eh, l'ami, dit le comte, est-ce donc l'habitude des chevaux de monseigneur de revenir à l'écurie tout seul, et les dresse-t-on à ce manège-là ? » Non, monsieur le comte, répondit le palefrenier, à quel propos votre seigneurie me demande-t-elle ça ? À propos de Roland. Ah oui, qui est venu seul hier. Oh, cela ne m'étonne pas de la part de Roland, c'est un cheval très intelligent. Oui, dit Montsoreau, je m'en suis aperçu. La chose lui était-elle donc déjà arrivée? Non, monsieur, d'ordinaire, il est monté par Monseigneur le duc d'Anjou, qui est excellent cavalier et qu'on ne jette pas facilement à terre. Roland ne m'a point jeté à terre, mon ami, dit le comte, piqué qu'un homme, cet homme fût-il un palefrenier, pût croire que lui, le grand veneur de France, avait vidé les arçons, car sans être de la force de monsieur le duc d'Anjou, je suis assez bon écuyer. Non, je l'avais attaché au pied d'un arbre pour entrer dans une maison, à mon retour, il était disparu. J'ai cru qu'on me l'avait volé, ou que quelque seigneur, passant par les chemins, m'avait fait la méchante plaisanterie de le ramener. Voilà pourquoi je me demandais qui l'avait fait rentrer à l'écurie. Il est rentré seul, comme le majordome a eu l'honneur de le dire hier à monsieur le comte. C'est étrange, dit Montsoreau. Il resta un moment pensif, changeant de conversation. Monseigneur monte souvent ce cheval, dis-tu ? Il le montait presque tous les jours avant que ses équipages fussent arrivés. Son Altesse est rentrée tard hier, une heure avant vous, à peu près, monsieur le comte. Et quel cheval, montait le duc, n'était-ce pas un cheval baie brun, avec les 4 pieds blancs et une étoile au front ? Non, monsieur, dit le palefrenier, hier, son Altesse montait Isolin, que voici. Et dans l'escorte du prince, il n'y avait pas un gentilhomme montant un cheval tel que celui dont je te donne le signalement ? Je ne connais personne ayant un pareil cheval. C'est bien, dit Montsoreau, avec une certaine impatience d'avancer si lentement dans ses recherches. C'est bien, merci. Selle-moi Roland. Monsieur le comte désire Roland ? Oui. Le prince t'aurait-il donné l'ordre de me le refuser ? Non, monsieur, l'écuyer de son Altesse m'a dit au contraire de mettre toutes ses écuries à votre disposition. Il n'y avait pas moyen de se fâcher contre un prince qui avait de pareilles prévenances. Monsieur de Montsoreau fit de la tête un signe au palefrenier, lequel se mit à seller le cheval. Lorsque cette première opération fut finie, le palefrenier détacha Roland de la mangeoire, lui passa la bride et l'amena au comte. « Écoute, lui dit celui-ci en lui prenant la bride des mains, et réponds-moi. »« Je ne demande pas mieux, répondit le palefrenier. « Combien gagnes-tu par an ? » ?»« 20 écus, monsieur. »« Veux-tu gagner 10 années de tes gages d'un seul coup ?»« Pardieu, fit l'homme, mais comment les gagnerais-je »« Informe-toi qui montait hier, un cheval baie brun avec les 4 pieds blancs et une étoile au milieu du front. » « Ah, monsieur, dit le palefrenier, ce que vous me demandez là est bien difficile. Il y a tant de seigneurs qui viennent rendre visite à son Altesse. »« Oui, mais 200 écus, c'est un assez joli denier pour qu'on risque de prendre quelque peine à les gagner. »« Sans doute, monsieur le comte aussi, je ne refuse pas de chercher, tant s'en faut. »« Allons, dit le comte, ta bonne volonté me plaît. Voici d'abord 10 écus pour te mettre en train. Tu vois que tu n'auras pas tout perdu.
Merci, mon gentilhomme.
C'est bien, tu diras au prince que je suis allé reconnaître le bois pour la chasse qu'il m'a commandé. » Le comte achevait à peine ces mots que la paille cria derrière lui sous les pas d'un nouvel arrivant. Il se retourna.
« Monsieur de Bussy !» s'écria le comte.
« Bonjour, monsieur de Montsoreau, » dit Bussy. « Vous, à Angers, quel miracle !»«
Et vous, monsieur, qu'on disait malade ?»«
Je le suis, en effet, » dit Bussy. « Aussi, mon médecin m'ordonne-t-il un repos absolu ?»« Il y a 8 jours que je ne suis sorti de la ville. »
Ah, vous allez monter Roland, à ce qu'il paraît.
Ah, c'est une bête que j'ai vendue à monsieur le duc d'Anjou, et dont il est si content qu'il la monte presque tous les jours.
Montsoreau pâlit.
Ah oui, dit-il, je comprends cela, c'est un excellent animal.
Vous n'avez pas eu la main malheureuse de le choisir du premier coup, dit Bussy.
Oh, ce n'est point d'aujourd'hui que nous faisons connaissance, répliqua le comte, je l'ai monté hier.
Ce qui vous a donné envie de le monter encore aujourd'hui.
« Oui, dit le comte.
Pardon, reprit Bussy, vous parliez de nous préparer une chasse.
Le prince désire courir un cerf.
Il y en a beaucoup, à ce que je me suis laissé dire dans les environs.
Beaucoup.
De quel côté allez-vous détourner l'animal ?
Du côté de Méridor.
Ah, très bien, dit Bussy, en pâlissant à son tour malgré lui. « Voulez-vous m'accompagner ? Demanda Montsoreau.
« Non, mille grâces, répondit Bussy, je vais me coucher, je sens la fièvre qui me reprend. »«
Allons, bien !» s'écria du seuil de l'écurie une voix sonore. « Voilà encore monsieur de Bussy, levé sans ma permission. »«
Le Haudouin, dit Bussy, bon, me voilà sûr d'être grondé. Adieu, comte, je vous recommande Roland. »«
Soyez tranquille. »
Bussy s'éloigna et monsieur de Montsoreau sauta en selle.
« Qu'avez-vous donc ?» demanda le Haudouin. « Vous êtes si pâle que je crois, presque moi-même, que vous êtes malade. »«
Sais-tu où il va ?» demanda Bussy.
« Non, il va à Méridor. »«
Eh bien, aviez-vous espéré qu'il passerait à côté ?»«
Que va-t-il arriver, mon Dieu, après ce qui s'est passé hier ?»«
Madame de Montsoreau n'ira,
mais il a vu. »«
Elle lui soutiendra qu'il avait la berlue. »«
Diane n'aura pas cette force-là. »
« Oh, monsieur de Bussy, est-il possible que vous ne connaissiez pas mieux les femmes ?»«
Remy, je me sens très mal. »«
Ah, je crois bien, rentrez chez vous. Je vous prescris pour ce matin... »«
Quoi ?»«
Une daube de poularde, une tranche de jambon et une bisque aux écrevisses. »«
Ah, je n'ai pas faim. »«
Raison de plus pour que je vous ordonne de manger. »
« Remy, j'ai le pressentiment que ce bourreau va faire quelques scènes tragiques à Méridor. En vérité, j'eusse dû accepter de l'accompagner quand il me l'a proposé. »«
Et pour quoi faire ?
Pour soutenir Diane. »«
Madame Diane se soutiendra bien toute seule. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, et comme il faut que nous en fassions autant, venez, je vous prie. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on vous voie debout. Pourquoi êtes-vous sorti, malgré mon ordonnance ?
J'étais trop inquiet, je n'ai pas pu tenir. »
Remy haussa les épaules, emmena Bussy et l'installa, porte close, devant une bonne table, tandis que monsieur de Montsoreau sortait d'Angers par la même porte que la veille. Le comte avait eu ses raisons pour redemander Roland. Il avait voulu s'assurer si c'était un hasard ou par habitude que cet animal, dont chacun vantait l'intelligence, l'avait conduit au pied du mur du parc. En conséquence, en sortant du palais, il lui avait mis la bride sur le cou. Roland n'avait pas manqué à ce que son cavalier attendait de lui. À peine hors de la porte, il avait pris à gauche, M. de Montsoreau l'avait laissé faire, et puis à droite, et M. de Montsoreau l'avait laissé faire encore. Tous deux s'étaient donc engagés dans le charmant sentier fleuri, puis dans les taillis, puis dans les hautes futaies. Comme la veille, à mesure que Roland approchait de Méridor, son trot s'allongeait. Enfin, son trot se changea en galop et, au bout de 40 ou 50 minutes, M. de Montsoreau se trouva en vue du mur, juste au même endroit que la veille. Seulement, le lieu était solitaire et silencieux. Aucun hennissement ne s'était fait entendre, aucun cheval n'apparaissait attaché ou errant. M. de Montsoreau mit pied à terre, mais cette fois, pour ne pas courir la chance de revenir à pied, il passa la bride de Roland dans son bras et se mit à escalader la muraille. Mais tout était solitaire au-dedans comme au-dehors du parc.
les longues allées se déroulaient à perte de vue, et quelques chevreuils bondissants animaient seuls le gazon désert des vastes pelouses. Le comte jugea qu'il était inutile de perdre son temps à guetter des gens prévenus, qui, sans doute effrayés par son apparition de la veille, avaient interrompu leur rendez-vous ou choisi un autre endroit. Il remonta à cheval, longea un petit sentier, et après un quart d'heure de marche, dans laquelle il avait été obligé de retenir Roland, il était arrivé à la grille. Le baron était occupé à faire fouetter ses chiens pour les tenir en haleine lorsque le comte passa le pont-levis. Il aperçut son gendre et vint cérémonieusement au-devant de lui. Diane, assise sous un magnifique sycomore, lisait les poésies de Marot. Gertrude, sa fidèle suivante, brodait à ses côtés. Le comte, après avoir salué le baron, aperçut les deux femmes. Il mit pied à terre et s'approcha d'elles. Diane se leva, s'avança de 3 pas au-devant du comte et lui fit une grave révérence. « Quel calme, ou plutôt quelle perfidie !» murmura le comte. « Comme je vais faire lever la tempête au sein de ces eaux dormantes !» Un laquais s'approcha. Le grand veneur lui jeta la bride de son cheval, puis se retournant vers Diane, « Madame, dit-il, veuillez, je vous prie, m'accorder un moment d'entretien. »« Volontiers, monsieur, répondit Diane. « Nous faites-vous l'honneur de demeurer au château, monsieur le comte ?» demanda le baron. « Oui, monsieur, jusqu'à demain, du moins. » Le baron s'éloigna pour veiller lui-même à ce que la chambre de son gendre fût préparée selon toutes les lois de l'hospitalité. Montsoreau indiqua à Diane la chaise qu'elle venait de quitter et lui-même s'assit sur celle de Gertrude en couvant Diane d'un regard qui eût intimidé l'homme le plus résolu. « Madame, dit-il, qui donc était avec vous dans le parc hier soir ?» Diane leva sur son mari un clair et limpide regard. « À quelle heure, monsieur ? » demanda-t-elle d'une voix dont, à force de volonté sur elle-même, elle était parvenue à chasser toute émotion. « À 6 heures. »« De quel côté ? » ?»« Du côté du vieux Tailly. » »« Ce devait être quelque femme de mes amis, et non moi, qui se promenait à ce côté-là. »« C'était vous, madame, » affirma Montsoreau. « Qu'en savez-vous ? » dit Diane. Montsoreau, stupéfait, ne trouva pas un mot à répondre, mais la colère prit bientôt la place de cette stupéfaction. « Le nom de cet homme, dites-le-moi. »« De quel homme ? » ?»« Mais de celui qui se promenait avec vous. »« Je ne puis vous le dire, si ce n'était pas moi qui me promenais. »« C'est vous, vous, dis-je, » s'écria Montsoreau en frappant la terre du pied. « Vous vous trompez, monsieur, » répondit froidement Diane. « Comment osez-vous nier que je vous ai vu ?»« Ah, c'est vous-même, monsieur. »« Oui, madame, c'est moi-même. Comment oserez-vous nier que ce soit vous, puisqu'il n'y a pas d'autre femme que vous à Méridor ?»« Voilà encore une erreur, monsieur, car Jeanne de Brissac est ici. »« Madame de Saint-Luc ?»« Oui, madame de Saint-Luc, mon amie. » »« Et monsieur de Saint-Luc ne quitte pas sa femme, comme vous savez. » Leur mariage à eux est un mariage d'amour. C'est monsieur et madame de Saint-Luc que vous avez vus. Ce n'était pas monsieur de Saint-Luc, ce n'était pas madame de Saint-Luc, c'était vous que j'ai parfaitement reconnu, avec un homme que je ne connais pas, lui, mais que je connaîtrai, je vous le jure. Vous persistez donc à dire que c'était moi, monsieur ? Mais je vous dis que je vous ai reconnu, je vous dis que j'ai entendu le cri que vous avez poussé. « Vous serez dans votre bon sens, monsieur, » dit Diane, « je consentirai à vous entendre. Mais dans ce moment, je crois qu'il vaut mieux que je me retire. »« Non, madame, » dit Montsoreau, en retenant Diane par le bras, « vous resterez. »« Monsieur, » dit Diane, « voici monsieur et madame de Saint-Luc. J'espère que vous vous contiendrez devant eux. » En effet, Saint-Luc et sa femme venaient d'apparaître au bout d'une allée, appelés par la cloche du dîner qui venait d'entrer en branle, comme si l'on eût attendu que M. de Montsoreau pour se mettre à table. Tous deux reconnurent le comte, et devinant qu'ils allaient sans doute, par leur présence, tirer Diane d'un grand embarras, ils s'approchèrent vivement. Madame de Saint-Luc fit une grande révérence à M. de Montsoreau. Saint-Luc lui tendit cordialement la main. Tous trois échangèrent quelques compliments, puis Saint-Luc, poussant sa femme au bras du comte, prit celui de Diane. On s'achemina vers la maison. On dînait à 9 heures au manoir de Méridor. C'était une vieille coutume du temps du bon roi Louis XII qu'avait conservé le baron dans toute son intégrité. Monsieur de Montsoreau se trouva placé entre Saint-Luc et sa femme. Diane, éloignée de son mari par une habile manœuvre de son amie, était placée, elle, entre Saint-Luc et le baron. La conversation fut générale. Elle roula tout naturellement sur l'arrivée du frère du roi à Angers et sur le mouvement que cette arrivée allait opérer dans la province. Montsoreau eût bien voulu la conduire sur d'autres sujets, mais il avait affaire à des convives rétifs. Il en fut pour ses frais. Ce n'est pas que Saint-Luc refusa le moins du monde de lui répondre, tout au contraire, il cajolait le mari furieux avec un charmant esprit. Et Diane, qui, grâce au bavardage de Saint-Luc, pouvait garder le silence, remerciait son ami par des regards éloquents. « Ce Saint-Luc est un sot qui bavarde comme un jet, dit le comte. Voilà l'homme duquel j'extirperai le secret que je désire savoir, et cela par un moyen ou par un autre. » Monsieur de Montsoreau ne connaissait pas Saint-Luc, étant entré à la cour juste comme celui-ci en sortait. Et sur cette conviction, il se mit à répondre au jeune homme de façon à doubler la joie de Diane et à ramener la tranquillité sur tous les points. D'ailleurs, Saint-Luc faisait de l'œil des signes à madame de Montsoreau, et ces signes voulaient visiblement dire « Soyez tranquille, madame, je mûris un projet ». Nous verrons dans le chapitre suivant quel était le projet de M. Saint-Luc.